Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamain.
Avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau, c'est l'After sur RMC, 22h46. On va prolonger le débat parce qu'il semble passionné, tous ceux qui nous écoutent autour de Flo et Daniel, hein, sur la faillite technique du football français. Tiens, j'accueille tout de suite Yasser qui voulait réagir également. Salut Yasser.
Oh Francis.
N'importe quoi, rien à voir.
Salut Daniel, salut.
Salut Yasser, bienvenue dans l'After.
Bon. Merci beaucoup.
Alors, tu nous écoutes attentivement depuis tout à l'heure, je crois. Quel est ton regard là-dessus, toi? Est-ce que déjà, tu déplores cette carence française?
Bah oui, parce qu'on est amoureux de football. Après, pas forcément. On va pas se mentir, en tant que supporter, enfin, juste en tant que supporter, c'est les résultats. Bien joué, avoir la possession du ballon, enfin, techniquement, c'est plaisant, mais c'est réaliste. De finale de chaque compétition ou pas passer les points, c'est encore plus frustrant pour le supporter. Après, pour le côté forme,
non, mais tu vois, regarder, je parlais pas. Toi, j'avais envie qu'on essaye un petit peu, Yasser, de pas penser au résultat, parce que je l'ai dit, ça ne nous a pas empêché 2018 de gagner, de faire finale là. On a fait 1000 fois les débats de comment tu le fais et tout. Mais moi, j'avais juste envie, tu vois, j'ai vu l'Allemagne. Il y avait un vrai plaisir à voir jouer cette équipe, la façon dont elle jouait, elle bougeait et ce rapport au ballon. Et là, en fait, je me suis bloqué. Je me suis dit, mais en fait, le dernier joueur français qui t'a fait kiffer, tu sais, le kiff du joueur, par exemple, Nico, il était amoureux il y a 10 ans.
Johan Gourcuff,
il le regardait jouer. Il y avait un vrai kiff. Tu vois, tu te disais, il va se passer un truc sur le terrain. Par exemple, moi en ce moment, quand je regarde le PSG, Vitinha me fait kiffer en ce moment. Ce qu'il fait avec le ballon sur le terrain, ça va peut-être durer 2 matchs, 3 matchs, j'en sais rien. Mais par exemple, tu vois, tiens, arrêtons-nous juste 2 secondes sur le PSG. Warren, c'est un super gamin, il grille toutes les étapes et tout. Mais bon, ok, super. Mais tu le vois aujourd'hui à côté de Vitinha. Je dis pas que je préfère forcément Vitinha Warren parce que je l'aime beaucoup, hein, mais.
Non.
Je parle du rapport au ballon.
Je pense
que je préfère le rapport au ballon, le profil technique. Warren, c'est un des fleurons de notre formation. Il fera peut-être une super belle carrière. Il est très performant, mais son rapport au ballon, ça n'a rien à voir avec Vitinha. C'est ça. On va bien se comprendre. Je parle pas de performance.
Hein.
Moi, j'aimerais kiffer sur un joueur français. Il y en a pas.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, Daniel. Mais ces joueurs-là, quelque part, on les a eus. Et je suis pas en train de victimiser la génération 87. Mais les Ménez, les Ben Arfa, les Nasri, on les avait. Peut-être un peu trop starifié, peut-être un peu trop la grosse tête. Ça ne nous a pas permis de les garder à un niveau de performance tel que on ne les a pas passés 3-0 pour les Coupes du Monde alors qu'ils étaient présents. On aurait pu miser sur eux autant que Karim Benzema.
Ils se sont grillés tout seuls, hein, les mecs, hein, avec la mentalité. Et parce que aussi, on les a, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand tu fais aussi jeune, tu les montes en star et tout. Leur intelligence de jeu, elle était très faible aux joueurs que tu as cités. Enfin, je parle de Ben Arfa. Hein. Nasri était quand même plus intelligent, bien sûr.
Bien sûr, parce qu'on a gagné sans eux, et moi, ça n'a pas de problème à ce moment-là. Mais on les déplore, ces joueurs-là. Et est-ce que, du coup, avec ces starifications de joueurs et le fait qu'on puisse dire on a l'impression de rencontrer Dan, etc., et c'est ça qui cause problème assez techniquement, parce que tout le monde mire sur eux directement. Et du coup, nous, on en profite.
Oui, mais tu vois, l'autre truc aussi, c'est qu'il ne faut pas penser qu'il y en a un dans l'équipe ou il y en a deux dans l'équipe. Oui, ok, c'est très bien, t'as un mec, t'as des manieurs de ballon, t'en as un, t'en as deux, mais en fait, il en faut dans toutes les lignes. Il faut que la relance de derrière, elle soit propre. Il faut qu'au milieu de terrain, devant la défense, t'as un. Enfin, tu vois, c'est pas genre. Il y avait Ben Arfa. Ah, et en plus, c'était pas un milieu de terrain, Ben Arfa, tu vois. Moi, je parlais vraiment des milieux. Tu vois, c'est pas un mec isolé qui va avoir la lumière dans une équipe. Il faut que le puzzle, il soit fait avec. Je sais pas, l'Allemagne, là, je te refais la liste. Quoi. Tu les regardais sur le terrain. Kroos, Gundogan, Moussiala, Kimmich, Harvert,
Wirtz.
Quasiment à tous les postes, tu avais des beaux joueurs de foot. Quoi, tu vois,
bon. Yasser, merci d'avoir fait le 32-16. Hein, la liaison n'est pas top. Malheureusement,
ouais, malheureusement
tu reviens quand tu veux, Yasser. Tiens, on va accueillir un homme qui nous écoute, hein, qui était avec nous. Ah, oh là là, les gars. Il y avait 2-0 quand j'ai baissé la tête, il y a 2 partout. Les U23, l'équipe de France et les États-Unis. Patrick Müller, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah bah ils ont tout renversé en 2 minutes, hein, les joueurs des États-Unis, avec d'abord Yo qui place une superbe frappe, hein, le but de Diouf pour le 2-0 français.
C'est qui
superbe.
Le mec qui est rentré avec sa permanente colorée, hein.
C'est l'auteur.
Non, on dirait machin, tu sais, on dirait
Kate Cowell.
Comment il s'appelle, le demi d'ouverture Sudaf.
Ah oui, bien sûr,
le petit bonhomme qui a un physique super drôle là.
Qui est rentré Vas-y, en tout cas, quart de finale. Vas-y.
C'est ouf, ça.
Et de partout, donc l'égalisation avec ce joueur dont vous parlez, Cowell. Et bah, tout s'est écroulé en deux minutes pour ces Français qui semblaient maîtriser les débats dans une deuxième mi-temps qui se joue sur un faux rythme.
Fave de Clercq.
Fave de Clercq, voilà. Exactement.
Les comment il s'appelle, les espoirs, moi je suis désolé, évidemment il le dira jamais et tout, mais je suis sûr, je lis dans son esprit. Thierry Henry doit se dire, putain, franchement, les joueurs que j'ai, c'est pas dingo.
Mais il pourrait en ajouter 3 depuis 23 ans, on en parlera tout à l'heure. Je disais, il nous écoute depuis tout à l'heure, il était avec nous à Abidjan, ancien footballeur, ancienne légende brestoise notamment, ancien joueur du RC Lens.
Pas que.
Pas que, bon, c'est 15 clubs, hein, Montpellier, Grenoble, Wascal.
Non, mais il est à Abidjan.
Toulouse. Non, 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 il est avec nous là.
Il a fait mieux que
Xavier. Robert Malm est avec nous.
Oh là, Xavier Gravelaine. Robert, t'as battu Xavier Gravelaine en nombre de clubs, je suis pas sûr.
Non, je pense pas.
Je suis pas sûr. Je crois qu'il en a avoir un ou deux de plus que moi, Flo.
Ok.
Oui, il y en a une quinzaine pour Robert. Tu nous écoutais, Robert. Tu écoutais l'avis de Daniel à l'instant et tu m'as envoyé un message pour me dire effectivement, il faut déjà que nos joueurs fassent des gammes techniques à l'entraînement. Est-ce que c'est le cas, toi, qui as été formé en France et qui voit encore sur les terrains les jeunes joueurs français? Est-ce que c'est ce que tu constates?
Écoute, alors je ne veux pas dire que j'étais à la vieille école, mais. Sur chaque séance, tu avais droit à tes gammes techniques, à tes répétitions, je vous ai entendu tout à l'heure, contrôle pied droit, passe pied gauche, et ainsi de suite. Et beaucoup de choses comme ça qu'on ne fait plus. Aujourd'hui, tu vas à tes formations d'éducateur, il faut tout de suite tout mettre dans le jeu, tout de suite. Donc ce qui fait que tu as des garçons aujourd'hui qui... Et Daniel le dit, il y a des garçons aujourd'hui qui techniquement ont du mal. Mais déjà, quand tu fais des gammes techniques déjà avec les plus jeunes et que des passes à 10, 15 mètres sur une série de 30 passes, t'en as 10, voire 12 qui passent à 2, 3 mètres à côté, là t'as un problème, t'as un gros problème. Je pense que dès les tout petits, dès l'école du foot, il faut déjà remettre ces choses-là en place. Mais comme on veut tellement aller vite... On veut tellement les faire progresser et on pense qu'au jeu. Le mouvement, il viendra après. Quand tu prends les équipes de Coco Ciodo quand ils sont champions, je veux dire, demande à tous les mecs du FC Nantes s'ils n'ont pas bouffé des gammes techniques, des fois vides.
Ils ont des heures et des heures d'entraînement par semaine sans ballon, notamment. Ouais.
Oui, mais avec des choses bien précises et qui te permettent, comme dit Daniel, d'avoir un rapport au ballon. Mais. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, il faut le constater qu'on ne travaille plus ça, qu'on ne le travaille plus du tout. Et c'est le béaba, j'ai rien inventé. Hein.
Et de toute façon, ça ne va pas changer parce que les résultats, t'en as avec Léa, enfin tant que Deschamps est là. Oui. Et les clubs, de toute façon, vu que la plupart ont basé leur économie sur la vente de joueurs, tu sais, quand ils vendent un tel à 18 ans au Bayern, quand ils vendent, je ne sais plus qui était parti très tôt, là, comme ça, ça leur va. Parce que les clubs bossent aussi là-dessus et vivent là-dessus. Donc, il y a les Portugais, je ne sais pas si tu sais ça, Robert, tu vas me dire ce que tu penses de ça. Les Portugais, ils ont un championnat qui s'appelle un championnat révélation. C'est pour les U23, c'est les réserves des clubs pro qui s'affrontent.
Oui.
Et ça leur permet donc de plus bosser. Alors après, pardon, un club comme le Sporting, il faut savoir, c'est une académie extraordinaire, le Sporting au Portugal. Eux, ils sont dans la fabrique de joueurs, ils vendent également. Mais ils ont une telle quantité, ils bossent sur la technique, ils vendent, ça leur fait pas peur de vendre exactement comme nous, parce qu'ils sont dans la même économie, mais ils insistent à mort sur tout le côté technique.
Mais je suis d'accord avec toi, et eux, j'irais même plus loin, eux les vendent, j'irais même après la post-formation, c'est-à-dire que ces joueurs-là, non seulement ont eu... toute l'éducation technique. Ils jouent effectivement dans des championnats de réserve où techniquement tu es obligé d'être bon, mais ils vont quand même en équipe première. Et quand ils vont en équipe première, il faut quand même une, voire deux saisons. Et c'est comme ça après qu'on les voit, on se dit « Ah ben tiens, celui-là, ils sont tous passés par le championnat portugais à un moment donné » et tu te dis « Waouh, techniquement, ça a le niveau ». Pourquoi nous, on n'est pas capable de faire la même
c'est
chose?
C'est vrai, Robert. Moi, ça fait penser aussi à l'exemple de l'AS Monaco. J'en ai parlé avec Damien Perrinel. Il y a le groupe élite à l'AS Monaco. On a sorti les jeunes de Monaco.
Absolument.
Des championnats nationaux.
Absolument.
Pour pas que les mecs se tabassent ce week-end avec des mecs de 33, 34 ans, des bêtes physiques, pour parfaire leur qualité technique notamment. Pour leur donner le temps de grandir et d'améliorer leur qualité naturelle. C'est tout le sens du travail à Monaco. C'est pas le seul Monaco, le seul club à le faire. L'idée est là aussi. Bonifier les qualités naturelles avant les lancer très vite.
Attention.
Face à des gaillards, face
mais
à des
attention,
adultes.
Pas, il ne faut pas tout raccourcir. La technique, moi, devant la télé samedi soir, encore une fois, effectivement, le fameux rapport au ballon, parce que j'ai toujours kiffé ces joueurs-là, ça ne peut pas tout faire. Quand tu prends un Pastore qu'on adorait tous, qui fait kiffer les supporters du PSG encore maintenant, on n'a pas oublié que physiquement, il avait un problème, c'est que dans le football actuel, là, il ne tenait pas l'intensité, son corps n'a pas suivi. Donc, évidemment qu'il ne faut pas délaisser le reste. Le joueur parfait, on va dire en ce moment, le prototype, c'est plutôt Bellingham qui a et le physique et la technique. Et puis, une fois que tu as la technique, je disais tout à l'heure qu'il faut la mettre au service du collectif et bosser beaucoup le QI football. Le QI football, c'est savoir à quel moment tu fais la passe. Comment tu te mets tout de suite sur un contrôle dans le sens du jeu.
C'est ça, l'orientation du corps.
Et voilà, exactement. L'orientation du corps.
Exactement, être de trois quarts, savoir... avoir le champ de vision le plus large possible sur le terrain qu'au moment où tu vas recevoir le ballon. C'est vrai que c'est pas non plus que contrôle passe, mais c'est aussi comme tu le dis savoir se positionner où il faut, avoir la bonne orientation, les épaules dans la bonne direction, et savoir si quand le jeu te demande de jouer en une touche, voire deux touches quand la situation te le demande, dribbler quand il faut, parce qu'il faut pas non plus oublier qu'il faut être capable aussi d'éliminer quelqu'un justement pour pouvoir faire soit le décalage, soit garder le temps d'avance que tu avais au départ, et pourquoi pas pour conclure. Mais tout ça, on est capable de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, le maître mot qui est le temps ne l'a plus. Le temps, aujourd'hui, il faut aller très vite, il faut vendre cher. Et à un moment donné, tes joueurs, des fois, t'es coincé. Et puis, t'es tellement étranglé financièrement que ton meilleur joueur, tu vas le vendre alors qu'il n'est pas fini. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, techniquement, il nous manque quelque chose. Il manque cette chose, mais...
Juste pour kiffer un peu, quoi. Pour prendre un peu de plaisir quand tu regardes les mecs.
Exactement. Mais moi, tu sais, je pars des tout petits. Mais rien ne t'empêche chez les pros de continuer à progresser, à travailler techniquement.
Oui, sauf un point, un détail qui me semble... Daniel l'a évoqué. Le problème, tu fais jouer les joueurs en équipe première, les coachs de l'équipe première... Tu as la sensation qu'ils sont eux-mêmes dans une urgence telle qu'ils ne sont pas là pour, malheureusement, faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, le corps à moitié tourné vers l'avant,
Tu vois, c'est la session Guardiola le fait en permanence, c'est l'entraînement de tous les jours, sauf que la bonne surface de pied, l'orientation du corps.
Non, mais tu vois, j'ai entendu que Thierry Henry, j'ai parlé de Kalimundo tout à l'heure, j'ai entendu que Thierry Henry faisait ça. Et, dans des rassemblements où il a parfois presque paradoxalement un peu plus de temps avec Kalimundo, tu vois, des trucs d'attaquant. Mais c'est vrai que malheureusement les jeunes montent très vite en équipe première. Là le coach il leur dit tu rentres, tu machines. Est-ce que vraiment il a le temps de le refaire travailler, progresser? Oui, sans doute pour certains d'entre eux bien sûr, mais pas tout le temps. C'est là où on est totalement dans l'urgence.
Après on parle de mecs qui sont pour les bleus qu'on a vu samedi, malgré ce que j'ai appelé une faillite technique par rapport aux Allemands. Bon, il y en a, ils sont titulaires dans des grands clubs, mais Marcus Thuram, que moi je trouve très faible physiquement,
techniquement,
bon, à l'Inter, peut-être qu'avec Lautaro, parce qu'il est à côté d'un attaquant qui est beaucoup plus fin, l'association peut peut-être un peu marcher, je ne sais pas de quoi
futur. Mais... C'est aussi pour cette raison que Flo veut développer un avis sur un retour au 3-5-2 qui pourrait beaucoup aider Marcus Thuram. Robert, merci d'être venu.
Merci,
avec grand
plaisir.
Avec grand plaisir, les amis.
À bientôt, rentre bien, bonne soirée à toi. Dans un instant, l'avis de Flo, justement, qui demande à Didier Deschamps de sortir du placard le 3-5-2. En tout cas, pour demain soir, c'est raté. Ça, on l'a appris avec la compo probable. Restez avec nous, c'est l'after, avec Daniel et Flo. C'est terminé donc entre la France et les États-Unis. U23, mon cher Patrick.
Effectivement, de partout, score final avec ces Français qui menaient 2-0 jusqu'à la 85e minute. Les buts étaient signés Kalimundo sur pénalty et puis Andy Diouf à la 70e et 19e. Et les États-Unis qui sont donc revenus. Les États-Unis, rappelons-le, prochain adversaire des Français à l'occasion du tournoi olympique. Ce sera à Marseille le 24 juillet prochain.
Merci Patrick, bonne soirée à toi. L'after revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.